Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
La rétrospective du jour nous envoie 29 ans en arrière. Le 14 décembre 1995 étaient signés les accords de Dayton ou la fin des combats entre ethnies en Bosnie-Herzégovine. Retour sur ces accords de paix après 3 ans d'une guerre intense et cruelle avec Valentine Saburo.
Bonjour à tous, 3 ennemis réunis à la même table. Le Serbe Milosevic, le Bosniaque Izetbegovic et le Croate Tudjman. Des images qui entrent dans l'histoire. La scène se passait il y a un peu plus d'une heure à l'Élysée à Paris. Le plus dur reste à faire, installer la paix.
Malgré leur nom, les accords de Dayton sont ratifiés à Paris le 14 décembre 1995. Ils mettent fin à 3 ans et demi de guerre fratricide en Bosnie-Herzégovine, avec la mise en place, entre autres, d'une force de maintien de la paix placée sous l'égide de l'OTAN. Le pays, divisé en 2 entités, est doté d'une présidence collégiale tournante, mais reste étroitement surveillé par un représentant de la communauté internationale. Le maréchal Tito, héros de la Seconde Guerre mondiale et chantre inflexible de l'indépendance de son pays vis-à-vis de l'ancienne URSS, avait coutume de dire « La Yougoslavie a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et 1 seul parti ». Après sa mort en 1980, les choses se compliquent avec l'exacerbation de sentiments nationalistes. La Slovénie, la Croatie et la Macédoine commencent par faire sécession. Ne reste alors plus en Yougoslavie que la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et le petit Monténégro. Lorsque la Bosnie-Herzégovine devient indépendante, après le référendum du 29 février 1992 boycotté par les Serbes et que sa souveraineté est reconnue par les États-Unis, c'en est trop. Le 6 avril marque le début officiel d'une guerre civile sanglante où la ville de Sarajevo, durement assiégée, subit un long martyr. Le massacre de Srebrenica constitue un tournant. Le 11 juillet 1995, 8372 hommes et adolescents musulmans sont tués devant les forces onusiennes impuissantes. Un drame qualifié ultérieurement de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Melvudinoric, l'un des rares survivants, est revenu 10 ans plus tard sur les lieux du drame.
Pour la première fois, Mevludin affronte l'insoutenable.
Peut-être que mon père est là. Le fils de mon oncle. Et mes autres cousins sont là. Ils n'ont pas été encore retrouvés. Peut-être mes amis reposent ici. Ils n'ont pas mérité d'avoir leurs os ici, éparpillés avec les ordures.
La communauté internationale, qui a commencé à bouger de manière plus offensive durant l'été 95, va se mobiliser davantage. La France, par la voix de Jacques Chirac, son président d'alors, presse les États-Unis d'intervenir pour trouver une résolution au conflit. Il est temps de se mettre autour d'une table. Celle-ci sera installée le 1er novembre sur une base aérienne américaine située à Wright-Patterson, dans le nord-est de Dayton. Le Serbe Slobodan Milosevic, le Croate Franjo Tudjman et le Bosniaque représentant des musulmans Alija Izetbegovic vont devoir s'entendre. À la baguette, c'est Richard Holbrook, sous-secrétaire d'État aux affaires européennes sous Bill Clinton. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Russie forment à eux quatre un groupe de contact. Après 3 semaines de discussions menées sur un fil ténu, un accord est trouvé. Il porte sur la définition délicate des frontières et une nouvelle constitution. Il comporte pas moins de 150 pages et 102 cartes. La Bosnie devient un État fédéral, divisé en 2, la Fédération croato-musulmane d'une part et la République serbe d'autre part. Le tout fonctionnant selon une constitution soucieuse de préserver tous les équilibres, en conséquence de quoi elle est extraordinairement complexe. D'autres éléments font également l'objet d'un consensus.
Sarajevo reste la capitale indivisible de la Bosnie. Les Serbes ont dû abandonner les quartiers qu'ils détenaient.
Les hommes accusés de crimes de guerre seront exclus de la vie politique. Les carrières de messieurs Mladic et Karadzic s'achèvent. Aux troupes de l'Alliance Atlantique revient la lourde tâche de faire respecter l'accord et pour cela, 60 000 hommes seront dépêchés sur le terrain.
Négociés aux États-Unis, les accords de Dayton sont ensuite signés sous les ordres du palais de l'Élysée, occupé par Jacques Chirac. Moment solennel s'il en est, nous sommes le 14 décembre 1995. Très critiqués sur le moment, mais toujours en vigueur, ils auront au moins eu le mérite de faire cesser cette guerre, la plus dramatique depuis la Seconde Guerre mondiale, avec 200 000 victimes et 2 millions de réfugiés.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.